One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Je suis François Co.
Et je suis Quentin Dupieux.
Et tous les deux, vous nous promettez à la fois de l'action, des cascades, des déhanchés suggestifs, des gémissements et des explosions de maquettes.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Édito.
La culture, ça sert à trouver de bons prétextes. Halloween approche et l'industrie du costume propose déjà sa cuvée 2016 d'icônes effrayantes. Mélange plus ou moins heureux avec une tendance nette pour la perruque Trump cette année, mais aussi des panoplies Prince, période Purple Rain, l'arrivée du total look Kim Kardashian West agressé ou encore des dérivés de sorties multiplex comme les tenues Ghostbusters au féminin et Joker façon Suicide Squad. Mais pour trouver l'inspiration, alors même que vous n'avez nullement l'intention de vous déguiser, je vous conseille de remonter le temps sur grand écran jusqu'au 25 premières années du cinéma fantastique. Irrésistible débauche d'inventivité du cinéma muet, festival de cornes, de grandes dents, de poils, de tentacules et dieux dans le creux des mains. Autant d'œuvres matricielles comme les hallucinations du baron Munchausen de Georges Méliès, mais aussi Au secours d'Abel Gance. Écrit et incarné par Max Linder, Au secours, c'est l'histoire d'un type qui fait le pari qu'il peut rester de 23h à minuit dans un château hanté sans crier « Au secours ». Le héros finit par perdre son pari sur un coup de téléphone. Après un défilé de fantômes, corps sans tête, bourreaux à hache et autres bêtes sauvages engagées pour le faire crier. Cinéma dans le cinéma, mise en abîme habile, bref, le premier film de méta épouvante. En 1925, c'est le Lost World de Willis O'Brien et ses maquettes de dinosaures qui annoncent Jurassic Park de Spielberg. Dans L'Homme qui rit de Paul Leni en 1928, c'est bien la naissance du Joker adapté de Victor Hugo. L'Homme qui rit met en scène Conrad Veidt en homme défiguré, fendu par un sourire permanent. Bob Kane, le créateur de Batman, puisera là l'idée du personnage du Joker pour ses planches de comics. Voyage dans le temps créatif qui vous mettra donc dans une situation chic. Pour les dîners, vous direz « je ne suis pas en Joker », mais en « Homme qui rit » de Linder. Ce cycle inédit s'ouvre aujourd'hui à Paris à la Fondation Jérôme Sédou Pathé et dure jusqu'au 8 novembre. Quentin Dupieux. Et si nous parlions sur cette petite musique ? Ah, en plus de faire des objets sonores absolument brûlants et liquides, comme votre nouvel album All Wet, vous réalisez aussi des objets filmiques fantastiques, comme Wrong Cops, à qui Ping Pong, je l'ai dit, doit son générique. Ce cinéma muet, ça vous a nourri ?
Malheureusement, non, pas vraiment. Non, le film le plus muet que je connaisse, c'est le premier Lynch, en fait, Eraserhead. Voilà. C'est le seul film muet qui m'a imprégné. Mais bon, je suis désolé.
Mais vous êtes prêt à découvrir.
Oui, complètement, oui.
Ah ouais. Parce que, par exemple, là, justement, dans ce Au secours, on est sur une mise en abîme complètement dupieusesque.
Ah bon ?
Bah oui, parce qu'on a du cinéma dans le cinéma comme dans réalité, mais on y reviendra tout à l'heure.
Oui.
Du cinéma bis, on en a aussi, et comment ? On en a à la tonne, dans Nanarland, François Co, donc cette entreprise pleine de malfaiteurs que vous coordonnez, en tout cas pour laquelle vous avez été poussé sur notre plateau par vos camarades. Vous êtes donc à la tête de Nanarland 2, hein, le volume 2 des meilleurs, des 50 mauvais films sympathiques.
Oui.
Que vous avez réuni. À l'instant, Mathilde, elle parlait de Au secours, où il ne doit pas crier, le héros de ce film d'Abel Gance. Et dans réalité, Quentin Dupieux, son personnage, son héros, Jason, cherche le plus beau, le meilleur gémissement de l'histoire de l'humanité. Alors on pense à Blowout de Palma, mais je suis sûr que vous l'avez trouvé, le meilleur gémissement de l'histoire de l'humanité.
Oh, bah, il y a le fameux cri de Willem, hein, qui revient dans toutes les grosses productions. C'est un bruitage un peu connu. Mais,
Moi, je le connaissais pas, c'est Alain Chabat qui lui est obsédé par ce cri.
Ah, d'accord.
Moi, je connaissais pas du tout, en fait.
Donc le personnage d'Alain Chabat dans le film, et Alain Chabat en vrai est aussi obsédé par ce cri.
Oui, non, c'est vrai. Ouais, enfin, pas obsédé au point d'eux, mais il s'en est servi et il connaissait et ce sujet de l'intrigue. Donc il m'en a parlé, je pense que ça l'a un peu aidé dans sa préparation. Moi, je connaissais pas ce cri. C'est vrai que maintenant, quand on l'a entendu, on sait qu'on l'a entendu 500 000 fois.
Vous serez capable de le faire à la bouche, là ?
C'est un truc aigu, un peu...
Quelqu'un qui tombe de cheval, mais avec une espèce de prestance, de flegme limite britannique, mais qui s'échappe un peu.
Et il y a une histoire derrière, je crois que c'est... je sais plus quelle est l'histoire. Enfin, j'ai annoncé qu'il y avait une histoire derrière, mais en espérant que tu sois au courant.
Oulala, et voilà, je me suis piégé tout seul, en fait.
Il y a une histoire derrière.
J'ai su cette histoire, en plus. C'est dit dans un excellent numéro de Sofilm.
D'accord.
Comme ça, les gens sont obligés de tous les acheter, jusqu'à trouver le numéro.
Ou alors, il y a Google, oui. Et après, ou alors je peux donner le numéro d'Alain Chabat, le numéro de téléphone.
Mais donnez-le.
Ah bah, là, c'est très bien, oui, on peut le faire à l'antenne.
Et à présent, je vous propose, pour certains d'entre vous, de tomber de cheval et pour tous les autres, de gémir de plaisir avec une petite rétrospective, comme on dit au Centre Pompidou, de l'œuvre des 6 albums de Quentin Dupieux, a.k.a. Monsieur Oiseau.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, Ping Pong.
1, 2, 3. Vous êtes des animaux. Arrêtez de vous reproduire.
Shower and we play with an iPhone, but it's not entertaining, so we go to a nightclub, but the DJ is a fat dude, so we leave and we don't know what to do, so we steal another car and
we go to the church.
1, 2, 3.
Arrêtez de vous reproduire. Vous allez crever.
Dreams swaying in my airstream, sweating in the bear scene. I don't care, me. Coming up a downer, coming up a downer. Rubbing up, rubbing up, rubbing up, rubbing up all up and downer. Coming up a downer, coming up a downer. Rubbing up, rubbing up, rubbing up, rubbing up all up and downer. They pee you on the EU, they pee you on the EU, they pee you on the EU. They're freezing out the burn, burn.
Un petit amuse-bouche, comme on dit dans les restaurants très français. Un remix, vous êtes amateur de remix que vous commettez vous-même, Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux. Là, c'est Thomas Beau, notre réalisateur.
Bravo, ouais. Bravo Thomas, c'est comme un méga-mix.
Une sorte de méga-mix.
Comme si j'étais mort.
D'ultra-méga-mix, je pense que pour les superlatifs, on va avoir recours à François Coe.
Le méga-mix d'honneur, ça sent le sapin, Quentin Dupieux.
Et donc, il y avait des extraits de vos 6 albums, hein, Analog, Worms Attack, Moustache, Lambs, Anger, donc La Colère des Agneaux, Stade 2, et évidemment de All Wet, le dernier, et puis aussi des bandes originales de vos 6 longs-métrages, des extraits de Church, j'ai oublié de Church parmi vos albums. Bref, je me perds parce qu'il y a tellement d'œuvres.
Il y a le Cut Dick, donc Ping Pong. C'est le générique de Ping Pong de Wrong Cops, et il y a aussi donc le End in the Fire de Charlie XCX, mais dans une version qui est la version qui est sortie avant l'été, qui est pas la version totalement sombre de l'album de Quentin Dupieux. Dans All Wet, elle est plongée dans un bain d'obscurité.
Voilà. C'est ça, ouais, elle a pris des cachets. Ouais.
Mais à propos justement de votre côté sombre, on va peut-être commencer par là, à l'heure où la nuit tombe. Vous avez pu dire, Quentin Dupieux, si je ne faisais pas de l'électro, je serais un grand dépressif. Mais alors l'électro, c'est quoi pour vous? C'est un traitement de choc, ou au contraire c'est un langage, c'est une façon d'arriver, enfin peut-être, à parler aux autres?
Non, j'ai du mal à rebondir parce que ça m'étonne, je me vois pas...
Les Inrecuptibles, un magazine.
C'est connerie, oui, c'est connerie. Ils ont tout déformé. Non, mais alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Non, j'essaie de retrouver la source de la pensée. Non, peut-être j'ai voulu dire si j'étais pas créatif, je serais dépressif. Enfin, si j'avais pas les moyens de faire ce que je fais, peut-être que je serais pendu.
Justement inaugural, on sait que Renaud, qui fait ses fameux pots de fleurs plus ou moins géants, un jour de dépression, a mis du ciment dans un pot de fleurs, un geste un peu désespéré, et il a trouvé un sens à sa vie. Ouais. Vous, comment ça s'est passé cette mise en route, ce warm-up?
Le warm-up, c'est moi, c'est le cinéma. Hein, c'est le vrai warm-up, c'est le cinéma. C'est on est complètement dans le sujet parce que c'est complètement la VHS. C'est moi, j'ai 15 ans, je loue des VHS.
Le sujet, c'est parce qu'on reçoit justement François Coppe pour Nanarland.
C'est ça. Oui, pardon, les gens n'ont pas le livre entre les mains. Donc c'est un livre en forme de cassette VHS qui retrace, si j'ai bien compris, les films les plus abscons de l'histoire du cinéma et de la VHS.
Par catégorie, abscons également.
Les mauvais films sympathiques, c'est comme ça que je les appelle.
Toujours la tendresse, toujours.
Mais donc, ouais, moi la pulsion de départ, c'est le cinéma, c'est cette nourriture de films un peu Z, B, qu'on louait en vidéoclub. Donc, globalement, principalement, adolescent, c'était les films un peu sanglants qui m'attiraient. Donc, j'étais un grand consommateur de tout ça. Et en fait, ma première pulsion, ça a été d'essayer de refaire pareil, en fait. Je pense que c'est très courant. Sauf que tout le monde s'arrête très vite. Moi, j'ai continué. Et j'ai fait tout un tas de trucs qui étaient très mauvais. Bien pire que tous ces films-là. Mais bon, voilà, parce que j'étais jeune, j'étais complètement autodidacte. Donc, avec une caméra, il fallait comprendre comment le langage cinématographique fonctionnait. Donc, ça a été un apprentissage très long, mais ça vient de ça. Et la musique est venue à un moment où, je l'ai raconté 500 fois, mais c'est toujours rigolo, c'est que j'avais mis un morceau de Pierre-Henri, une musique un peu abstraite sur un court-métrage, un de mes premiers court-métrages en 16 mm, donc avec un peu de budget, que j'ai vendu à Canal+, en envoyant une VHS à Canal+. Et ils m'ont dit, bon, c'est super, on vous l'achète, mais est-ce que vous savez que, voilà, les droits de la musique, est-ce que c'est vous, etc. Donc moi, je savais même pas, j'avais aucune notion, j'avais 18 ans, je savais pas qu'il fallait posséder les droits de la musique. Je pensais qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Donc j'ai été forcé de refaire un bout de musique équivalent pour remplacer la musique de Pierre-Henri. Bah, sinon, j'étais obligé de payer, voilà.
Comme un copiste de tableau, quoi. Vous avez fait votre version à vous de Pierre-Henri.
C'est ça, donc je me suis procuré un synthétiseur, et puis j'ai bricolé, puis je suis tombé dedans, en fait, voilà.
Vous dites, quand on regarde au fil des déclarations, j'essaye de voir comment vous définissez votre cinéma. Alors, un coup, c'est la farce d'un enfant trop malin pour son âge. C'est du cinéma no reason, comme c'est dit dans une scène de Rubber, d'ailleurs. Il y a quelque chose du dérapage incontrôlé. Comment est-ce qu'on préserve, justement, l'incontrôle?
C'est en restant amateur, en fait. C'est très facile. Il faut garder cette espèce de distance amateur. C'est dur à expliquer techniquement. Mais en fait, il y a tout un tas de trucs, quand on commence à faire des films, il y a tout un tas de trucs qui nous forcent à se professionnaliser. C'est-à-dire qu'on embauche des techniciens et on commence à se poser des questions sur l'aspect des choses, sur le langage qu'on utilise. À plein de stades de l'écriture, on peut être pollué par des avis extérieurs pour qui auraient envie que le produit devienne plus pas professionnel mais plus produit, voilà. Et bon, moi, ma mission depuis toutes ces années, c'est de constamment garder cette espèce d'excitation que j'avais quand j'essayais de copier ces films VHS de manière complètement instinctive, en fait, voilà.
Mais François Coppe, est-ce qu'on peut pas dire que c'est exactement la même chose qui vous fait palpiter au Nanarland, au pays des nanars, ce côté amateur qui est toujours conservé, parce qu'il y a cette tagline, comme on dit, ce slogan « Seule une cassette vidéo peut prouver son innocence », ça c'est « Rage and Honor », c'est des films en apparence vicieux, tous ces nanars, et qui en fait regorgeraient au fond de candeur, d'innocence.
Évidemment, mais il y a le côté, sans vouloir théoriser à tout craint, c'est un côté un peu vraiment spontané. Enfin, là où, en vieillissant, les cinéphiles deviennent tous de plus en plus blasés, de plus en plus tristes, en fait. C'est pour ça que les critiques sont tous ces gens fondamentaux triste, je pense, sans vouloir faire de généralité, mais c'est trop tard.
Vous le rappelez, vous êtes critique de cinéma.
Ouais, je me considère comme quelqu'un de très triste. Ouais,
et vous assistez à une projection d'Independence Day, vous êtes mort de rire, vous dites
ah bon. J'avais 16 ans. Mais là, c'est encore autre chose. C'était, mais justement, il y avait cette innocence à l'époque. C'était le début du marketing viral avec cette image complètement folle de la Maison Blanche qui explose. Quand on avait 16 ans, on se disait, mais ce film, ça va être le Star Wars de notre génération, ça va être super. Et puis, on voit le film en avant-première avec une salle qui devient complètement hystérique à chaque fois que le chien arrive et qui a, enfin, qui, Il est sauvé au ralenti, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène, enfin, qui est absolument merveilleuse. Les gens gueulent le chien. Quand il y a le chien, chaque fois qu'il y a une explosion, quand il y a le discours du président, il y a des gens qui se sont levés, qui se sont mis à chanter l'international dans la salle. C'était quelque chose, enfin, c'était une espèce d'émulation collective complètement inattendue. En plus, les gens, tu vois, qui attendaient pour la séance d'après, ils me disaient alors, et vous voyez des gens complètement morts de rire sortir de la salle. Il y avait cette espèce de candeur. Après, par rapport au fait d'être blasé par rapport au cinéma aujourd'hui, le nanar, c'est quelque chose de très frais parce que ça surprend, en fait. C'est des gens qui, effectivement, essayent de dompter la grammaire cinématographique, qui n'ont pas tous les codes et qui s'en sortent avec un espèce de système D qui, parfois, confine au génie, en fait. On va dire lynchien pour employer des gros mots, mais...
Dans cette zone étrange entre le génie et la débilité que ne cesse de creuser Quentin Dupieux,
Quentin Dupieux, c'est quand même un autre niveau. Hein. Enfin, on y va dans la flatterie, mais c'est...
Je serais pas triste d'être dans ce livre.
Non, mais bon, honnêtement, Quentin Dupieux, c'est quelqu'un... Enfin, je suis très honoré d'être là. Ça se voit pas, mais là, je suis à genoux.
Si, voilà, vous êtes prosterné.
Ouais, voilà. Quelque chose de très gênant. Et il y a...
Heureusement que vous êtes grand, parce que vous arrivez au niveau de la table.
C'est ça. Pardon, allez-y. Non, la candeur, il y a juste peut-être dans Wrong Cops, qui fait vraiment un peu office esthétiquement de sale blague, mais jusqu'au bout, en fait. Et réalité, moi, c'est...
Quentin Dupieux,
rappelons. Ouais, ouais. Et le film d'après, réalité, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, quoi. Où il y a un nanar, effectivement, donc j'étais content.
Parce que ouais, ça, c'est... Et une VHS aussi.
Il y en a. Voilà, dans un animal mort. Et,
si on écoutait réalité.
Mais avec grand plaisir.
Écoute, je brûle d'impatience d'entendre ce que tu vas me raconter.
Comme je disais, ça se passe à notre époque, de nos jours, sur Terre. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais subitement, les postes de télévision deviennent très méchants.
Partout sur Terre?
Ouais.
C'est-à-dire que les télés envoient des ondes très puissantes qui font cramer les gens de l'intérieur. Ah, c'est bien ça, j'adore. Les gens souffrent?
Ils souffrent à fond.
Je veux que ce soit le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma. Et si le gémissement me convient, alors on signe. Et tu fais ton film.
Et je veux un Oscar pour ce gémissement.
Vous venez de voir avec les oreilles la bande-annonce de réalité réalisée par Quentin Dupieux. Jason tentera, il a vraiment un nom magnifique, c'est Alain Chabat qui va essayer de convaincre Jonathan Lambert dans le rôle de Bob Marshall, le producteur, de produire son nanar. Entre temps, bon, il se trouve que Bob Marshall aime bien des zinguins ou deux surfeurs à la lunette comme ça quand il est sur sa terrasse. Réalité, donc, c'est cette scène mythique que vous venez d'évoquer, François Coe. C'est Alain Chabat qui essaye d'enregistrer le plus beau gémissement de l'histoire du cinéma. Justement, ce film réalité, Quentin Dupieux, avec aussi Elodie Bouchez, il faut le rappeler, c'était un petit peu aussi votre situation déréalisée à Los Angeles, parce que vous habitez dans cette ville, dans cette non-ville, en fait, qui est un nulle part pour vous.
Non, ça fait plus, honnêtement, c'est plus, je m'en suis rendu compte après coup, c'est plus une sorte de magma d'impression que j'ai eu avec différents producteurs qui, en fait, on se retrouve à expliquer des intentions, des envies, avec des idées un peu construites. Et puis, en fait, on se retrouve à la fin avec un mec qui demande un truc qui n'a rien à voir avec le film, par exemple. Là, c'est un exemple un peu surréaliste. Aucun producteur ne m'a demandé un gémissement. Mais j'ai eu des trucs presque similaires. Où, en fait, après avoir exposé tout un tas d'idées qui étaient quand même assez riches, je me retrouvais face à des mecs qui me posaient des questions et qui essayaient de dévier instantanément au stade même du synopsis, essayaient déjà de dévier le film sur un élément qui n'avait rien à voir. Enfin, c'est très bizarre, le monde des producteurs.
C'est une quintessence de synopsis avorté et aussi d'imagerie comme ça qui vous viennent à l'instinct.
En fait, non, mais pour creuser ce truc, ce qui me ressemble dans réalité, c'est ce réalisateur un peu enfantin, qui a une idée un peu simple et qui essaye de séduire un mec, et puis voilà, et qui se retrouve confronté à la dure réalité de l'industrie, on va dire. Son projet n'intéresse personne, sauf si il va relever ce challenge.
Mais ouais, c'est un film que je trouve absolument incroyable. Enfin, l'adjectif lynchien, ça revient toujours un petit peu comme une tarte à la crème, mais là, cette structure qui est énormément travaillé en fait quoi. Enfin c'est qui est esthétiquement le film est une beauté aussi à couper le souffle. Enfin pour l'avoir vu sur grand écran. Et moi il y a une petite anecdote par rapport à ce film. Je vais essayer d'aller vite. Vous me coupez de toute façon. Vous me jetez des trucs à la gueule.
Oui parce qu'on peut pas vous couper au montage ouais, voilà, en direct.
C'est ça. Mais
on va vous jeter des
VHS voilà. des livres Nanarland.
Le film a été sélectionné dans le festival d'humour en France oui. Qui se passe en montagne. C'était une programmation un peu particulière qui sortait un peu des sentiers battus par rapport à l'existence du festival où il y avait aussi The Voices de Marjane Satrapi. Et en fait, moi, j'ai été très marqué par le fait que sur scène, le soir de la clôture, il y a un membre du jury qui se reconnaîtra pas, je pense, mais qui disait oui, il y a des films, on n'a pas trop compris ce qu'ils faisaient là. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué en fait, quoi. Enfin, c'est pardon d'avoir essayé quelque part, quoi.
Ouais. Mais j'ai une autre anecdote avec ce festival.
Ah, c'est grand plaisir.
Le producteur du film a rencontré dans un ascenseur.
On est au festival d'Avoria
de l'Alpe d'Huez.
L'Alpe d'Huez, pardon.
Qui est un truc où on est censé se taper sur les genoux, quoi.
Ouais.
J'ai pu comprendre.
Ouais. La comédie de l'année. C'est ça. En général, ici.
Et donc, ce cher Gad Elmaleh était, je crois, président du jury. Et il a croisé le producteur et Jonathan Lambert dans un ascenseur et il leur a dit, c'est un peu pour un musée d'art contemporain, ce film. Voilà. Lui, il se reconnaîtra, par contre.
Mais à propos de l'art contemporain, vous n'êtes jamais loin, finalement, si on revient à la musique, à All Wet, votre nouveau disque est donc sous la casquette, le pseudonyme de Monsieur Oiseau, Quentin Dupieux. On n'est jamais loin de l'art contemporain, il y a toute une forme de travail de l'expérimentation, je pense, à des morceaux qui ressemblent à des intermèdes, dans la mesure où ils sont un peu plus courts, comme Oiseau, qui ressemble à un transistor en plein craquage psychotique, ou alors les mesures composées qu'il y a dans le morceau Chairs. Est-ce que vous pouvez nous parler voilà, de ce rapport à l'expérimentation? Et moi, j'ai envie de dire, vu ma sensibilité personnelle, presque au jazz, parce qu'il y a du rythme, il y a du groove, il y a des trébuchements, il y a des sonorités presque de sax soprano.
Ouais, bah, c'est très simple. En fait, c'est la même chose que, si vous voulez, je pense que ma musique a l'air d'être une expérience, tout simplement parce que je ne suis pas musicien. Donc en fait, j'essaye, donc c'est une expérience par définition. Et c'est la même chose avec le cinéma, j'essaye de désapprendre, j'essaye de pas trop me nourrir de... des grands films, etc., des grands classiques. Je me suis jamais intéressé aux structures des scénarios, par exemple, pour pas être pollué par ça. Parce qu'il y a tellement de gens qui maîtrisent ça. Pourquoi me mettre à la queue leu-leu et faire comme tout le monde? Je trouve pas ça hyper intéressant. Et puis surtout, voilà, je pense que, en fait, c'est le même principe. C'est, en étant, en quête de, comment dire? Comment expliquer? Par exemple, en fait, il y a plein de choses, en fait, que j'ai l'impression d'inventer. Puisque au moment où je suis en train de tourner un film, j'invente cette chose en particulier. Mais en fait, c'est un truc qui existe, qui a déjà été vu et revu. Mais puisque le geste ressemble à l'invention, puisqu'il n'y a pas d'autre volonté que de l'inventer, et ben, d'un seul coup, c'est le truc m'appartient. Plus que si je l'avais pensé, copié ou étudié. Voilà. Et c'est pareil en musique. En musique, c'est évidemment des expériences, puisque je ne suis pas musicien, j'ai aucune notion. C'est que mes oreilles, j'ai aucune notion. Vraiment, je peux même pas dire je fais du synthétiseur. Je suis incapable de. Je peux jouer quelques petits trucs pour.
Qui font sortir à deux doigts.
Qui font poète poète. Oui, c'est deux doigts maximum. Mais en fait, c'est même pas l'enjeu. C'est-à-dire que j'aurais pu à un moment décider de prendre des cours, je sais pas quoi, de m'intéresser à comment on fabrique la musique, etc. Mais c'est pas le propos. J'aime bien rester comme un enfant avec les outils. Je trouve ça beaucoup plus drôle en fait. Tu parlais des critiques qui deviennent tristes au fur et à mesure de leur carrière, mais il y a un peu le même système avec les cinéastes. En fait, quand on sait trop ce qu'on fait et qu'on d'un seul coup on maîtrise trop quelque chose, eh ben on s'ennuie et puis ça.
On se dessèche et vous préférez rester tout mouillé.
Exactement, superbe.
All wet, tout mouillé.
Tout mouillé.
D'ailleurs, c'est un disque qui est assez brûlant pour un disque liquide. Il y a beaucoup de sons comme ça abrasifs. On trouve sur la pochette de l'album Flat Eric et cette petite marionnette jaune qui fait découvrir Monsieur Oiseau, qui vous fait entrer voilà dans le grand tableau de famille de la French Touch. Oiseau au pluriel, c'est un titre aussi sur All Wet. On a l'impression que finalement vous repartez sur ce personnage de Oiseau, que vous le reconstruisez un peu dans cet album.
C'est cyclique en fait, il revient, je sais pas comment, c'est même pas un choix, ça se fait vraiment de manière cyclique. Je l'ai vraiment rangé au placard après le succès, parce que c'était un peu dangereux, puis même j'avais pas envie en fait, c'était... comment dire? Il y avait un risque énorme de poursuivre ça, de donner aux gens, en fait, ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire, ce type de musique avec cette marionnette qui danse dans les clips. J'aurais pu en faire 15 et puis, m'acheter des maisons. Mais en fait, j'ai vite vu les limites de ce truc. Donc, je l'ai mis au placard. Et puis, en fait, après, spontanément, c'est revenu parce que le personnage est fort et qu'il est encore là. En fait, quand je fais des concerts, des gens viennent avec la marionnette. Donc je me suis dit que c'était un peu bête de le tuer si vite. Et puis en fait voilà, donc en 2007 j'ai fait un disque qui s'appelle Lemsänger, c'était aussi Flatterick la couverture, il était présent dans le disque aussi. J'avais fait un petit film qui reprenait Chien andalou de Buñuel, j'avais fait une parodie avec Flatterick pour en tant que teaser. Et puis après je l'ai remis au placard, et puis là je viens de refaire un disque, j'ai refait un clip avec Flatterick. Enfin c'est un personnage qui est là quoi, il est... de toute façon il me survivra, ça c'est sûr.
François Coe...
C'est un peu votre Tintin quoi.
Dans les nanars, il arrive qu'on assassine des marionnettes, hein, et plus qu'à son tour. Mais il y a aussi de la musique, et vous y insistez dans les critiques, j'allais dire les chroniques, dans toutes les critiques, parfois cruelles, que vous réservez à tous ces nanars. J'aimerais qu'on en dise un mot, parce que à la fois il y a des drôles d'hybridation dans le nanar, dans le cinéma, comme il y a de l'italo disco ou du speed metal symphonique, il y a de la techno féodale, enfin du techno féodal au cinéma, le fameux post nuke French Touch, hein, avec le film Diesel, film French Touch post nucléaire. Il y a du cinéma d'animation non euclidien, et il y a même de la RPR-ploitation avec la nuit du risque. J'aimerais que vous nous disiez un mot. On va y venir au genre, mais à la musique, parce que dans Beowulf, il y a de la house pouette-pouette, de la machina tuning, et vous parlez même de techno de supermarché sataniste.
Oui, mais ça, c'est plein de private joke et de choses un petit peu cachées. Il y a une référence au groupe de punk Frustration aussi. Enfin, il y a plein de petits trucs où on s'amuse un petit peu aussi avec la matière qui est amusante déjà, mais il y a ça aussi. Bah, après, la musique, c'est compliqué. Il y a un chapitre sur les comédies musicales. Bah, ça montre la largeur de l'éventail à ce niveau-là. Il y a à la fois le cinéma Bollywood, où là encore, c'est tout un pan à part entière, hein. Mais il y a, le film Disco Dancer, en fait, où c'est assez intéressant parce que Bollywood c'était la grande époque où les copyrights ils s'asseyaient dessus et ils dandinaient quoi, et il y a une reprise de T'es OK T'es Bad T'es In de Ottawan, de Video Kill de Ready or Star dans le même film. Version disco à chaque fois, enfin bon, sachant que Ottawan c'était déjà ça, mais voilà. Il y a aussi bien le film de Vanilla Ice avec du hip-hop en carton du début des années 90, le film de breakdance produit par la Canon, où la bande-son est par ailleurs tout à fait honnête. Enfin, il y a un peu à boire et à manger en fait. Il y a aussi bien des choses musicalement qui reflètent l'absence de qualité, on va dire, du produit à l'écran, que des choses totalement formidables quoi. Il y a beaucoup, par exemple, dans le cinéma italien de genre des années 60-70, il y a des compositeurs que j'ai découvert parfois dans le cadre de Nanar, de choses vraiment crapuleuses, mais où la bande son est magnifique. Il y a du Risortolani, du Piero Umiliani, des choses absolument du Nico Fidenco, des choses absolument magnifiques sur des produits dégueulasses.
Et est-ce qu'il y a des grands noms qui participaient à ces conneries en sous pseudo ou pas du tout?
Oh bah par exemple, je pense que la discographie complète d'Ennio Morricone reste à tracer par des exégètes sous amphétamine dans un siècle quoi, mais oui sûrement. Après dans le détail, il faudrait vraiment appeler des spécialistes beaucoup plus pointus que je ne peux l'être. Donc, amateur que je suis.
Suchon et Woolsey ont commencé en faisant de la musique pour des films érotiques, mais je sais pas si Bachelet. C'est digne de Nanar.
Pierre Bachelet.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong, l'émission de techno-féodal et de cinéma Moussaka. À suivre, nous aurons une attaque de tomateuse avec François Coe pour parler du deuxième volume de Nanarland. Et toujours tout mouillé et tout expérimental, Quentin Dupieux pour All Wet.
À partir de quel moment, pour vous, commence la musique?
Lolle Wehstein, l'héroïne ravie de Marguerite Duras, avait des oiseaux sauvages dans sa vie. Et ce soir, nous aussi, les oiseaux sauvages et mouillés, comme des mouettes de l'album All Wet. Et parmi eux, Seba, un track volatile au nom qui nous a d'emblée intrigués, Roueux, qu'on pourrait traduire de l'allemand par Vogel, ou plus sobrement, Silence. Roueux est produit par Monsieur Oiseau, avec la complicité du bien nommé Boys Noise. Et ce morceau, outre sa basse martiale, ses voix traitées comme des percussions, ou encore le son à un brin SM d'une badine qui joue avec nous à fouet de cocher, illustre à merveille le pacifique art de la guerre, selon Oiseau. Cet art de faire entrer progressivement par vagues ces sons, ces bruits, ces instruments, et de les faire soudain se retirer, comme des archers en embuscade, changeant le dance floor en champ de bataille, pour mieux terrasser et obtenir in fine la reddition complète, en un mot, le ravissement des danseurs enfiévrés. Ouais. Boy.
Monsieur Oiseau et Boys Noize, featuring Boys Noize, extrait de All Wet, le nouvel album de Monsieur Oiseau qui est sorti chez Headbanger et Because Music. J'aimerais bien que, puisque vous êtes là, Quentin Dupieux, et que vous êtes Monsieur Oiseau,
que je fasse ma promotion.
Un petit behind the scene, comme on dit à Hollywood et jusque dans la Porn Valley, à propos de ce titre.
À ce titre en particulier, très simple, j'ai une méthode avec Alex, donc Boys Noize. Qui est en fait qui est imparable puisqu'on a le même la même faculté à savoir s'arrêter très vite. C'est-à-dire que j'ai essayé de travailler avec beaucoup de personnalités différentes et en fait il y a un problème qui revient assez souvent, c'est les artistes qui n'arrivent pas à terminer en fait, qui aiment pas laisser partir le truc, qui ont envie de revenir, qui ont envie de laisser poser, etc. Bon moi c'est un truc qui me va pas du tout, mais j'ai rencontré ce problème plusieurs fois. Qui pour moi est un truc qui peut casser la magie. Après, ça peut emmener vers des trucs plus élaborés et ça peut être intéressant. Mais bref, ça
peut aussi emmener dans la dépression.
Mais c'est ça, ouais.
Comme
ouais.
Dans Adaptation de Spike Jonze.
Non, mais bien sûr, non, mais c'est très courant. Il y a plein de. En plus, surtout, les outils qu'on a aujourd'hui sont infinis. C'est-à-dire qu'un ordinateur, on peut revenir, on peut enregistrer 200 versions du même morceau, on peut améliorer, ajouter des couches à l'infini. Il y a des instruments à l'infini, des effets à l'infini. C'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Il faut savoir limiter, sinon c'est interminable. Et donc, avec Alex, on a cette faculté de, on fait généralement un aller-retour. Voilà. Donc, je fais le morceau, il le reçoit, il fait sa sauce dessus. Donc là, en l'occurrence, techniquement, j'ai fait le morceau. Lui, il a reçu une version plate du morceau. Il a rajouté les voix, donc, roueux, l'allemand. Forcément, ça vient de lui. Il a fait un edit, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il a enlevé des bouts qui l'emmerdaient, et il a, pardon, j'ai dit emmerdé, mais j'ai vu les gros yeux.
Non, au contraire, mais on n'a pas.
Non, il y a une alerte, il y a une alerte, c'est parti.
Ouais.
Alerte France Culture, gros mot, attention.
Donc il a fait de l'edit.
Qui l'embête.
Du montage.
Ça l'embêtait.
Du montage. Et puis de la, on va dire de la post-production, c'est-à-dire qu'il a rajouté des sons de batterie plus forts, et puis le morceau est revenu chez moi, et puis je l'ai terminé, et puis voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça.
Le track, le morceau. C'est dur, vous savez qu'on va avoir des mails d'auditeurs, Quentin Dupuis, attention.
Mais ouais, en plus, je commence à être vendable.
Un courriel, Mathilde.
Ping-pong. La culture sans limite.
10 years ago, a motion picture became the most notorious cult movie of all time. Predictably, the French called it a masterpiece. The name of this legend of cinema.
The Attack of the Killer Tomatoes. It was so stupid, so cheap, such a piece of steaming dog flop. You think it would have attracted horse flies? Never an audience. Now, get ready to sit on your intelligence once again. They made the sequel, The Return of the Killer Tomatoes.
L'attaque des tomates tueuses. Vous écoutez ping-pong, enfin tennis de table sur France Culture et nous avons écouté justement cette bande-annonce parce que François Coe, c'est comme ça, selon la légende, que vous seriez tombé dans le nanar. Vous vous occupez de nanar avec le site Nanarland, avec donc ce livre, le livre des mauvais films sympathiques, donc c'est le Nanarland volume 2 qui vient de sortir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette attaque de tomates tueuses? Et surtout, je voudrais que vous nous expliquiez quelque chose de fondamental chez vous, c'est la distinction entre le nanar et le navet.
Oh bah ça c'est très facile, ça a été trouvé par les fondateurs du site que j'ai rencontré au bout de quelques mois après qu'ils l'aient élaboré, parce qu'on habite dans la même ville de province, un peu la légende toujours. Et en fait voilà,
entouré
la différence
de montagne
entre...
et qui était ouais, cher voilà. À Stendhal, on n'en dira pas plus.
Il pleuvait très fort ce soir là
et... ouais voilà. Il pleuvait sur Brest, c'est particulier. Et non, la différence entre un navet et un nanar, c'est que le navet bah c'est pénible et le nanar c'est drôle. Tout simplement. D'où le mauvais film sympathique, en fait. C'est la différence entre, je sais pas, le Serment de Tobrouk et le Jour et la Nuit de Bernard Henri Lévy. Serment de Tobrouk, c'est pénible. Jour et la Nuit, c'est drôle. Voilà. Essentiellement.
Bernard Henri Lévy, il est chez Nanarland, alors.
Bientôt, il ne paie rien pour attendre ce sacripant. Mais.
L'attaque des tomates tueuses, donc de l'américain John DeBello, sorti en 1978, qui a eu le droit à ses tomates tueuses contre-attaques, à ses retours et autres.
Alors, c'est Le Retour, précisément. Un des premiers films de Georges Clooney, qui est beau comme un camion dedans, avec une espèce de nuque longue. Qui, je sais pas s'il l'a dans Urgence, mais bon, enfin bref, c'est assez magnifique. Mais c'est un genre de nanar assez particulier. Ça qui est bien avec le nanar, c'est que c'est aussi riche que le cinéma en tant que tel. Il y a autant de nanar que de genres cinématographiques. C'est l'autre expression un peu totem du site qui a été créé pour une émission sur un site web. C'est la face cachée du cinéma, c'est-à-dire le côté un peu honteux, l'accident industriel, l'accident heureux finalement pour ceux qui l'ont fait, mais pour nous quelque part.
Et alors qu'il y a des trucs en salle bien plus honteux quand même.
Oui, mais après en VOD, mais maintenant c'est ça qui est bizarre aussi, c'est que c'est devenu un marché en fait, comme tout dans le cinéma. Des films comme Sharknado, c'est des films qui n'ont pas d'intérêt. Alors, en fait,
Sharknado, pour préciser, c'est des requins qui sont dans une tempête comme ça.
Voilà, Shark,
tornade. Voilà. Nado, c'est pour tornado. Et donc c'est une tornade de requins comme ça. Ils sortent de la tornade et hop, ils mangent les gens, mais il faut les couper à la tronçonneuse.
C'est des films qui sont mal faits exprès. Donc c'est l'ennemi dans la quête du sens du nanar en fait.
Oui, parce qu'en plus,
ça n'a pas de sens.
On a perdu l'expérimental de Quentin Dupieux, c'est ça.
Complètement.
Non, mais en plus c'est des trucs déguisés. C'est-à-dire que c'est des studios, ils ont de l'argent, ils font semblant.
Oui.
Par rapport à un film, évidemment, ils n'ont pas les budgets de Steven Spielberg, mais c'est des faux. C'est pas des trucs faits dans le jardin. C'est quand même des studios qui se disent c'est un produit en fait. On va fabriquer un truc qui a l'air d'être pauvre parce que ça excite une gamme de spectateurs.
C'est un marché quoi. Ouais. C'est triste en fait quoi. C'est ce genre de studio, ils font des films avec des bestioles géantes en images de synthèse absolument immondes qui s'affrontent. C'est pas drôle. Mais quand ils font Titanic 2, là c'est drôle. Là, c'est drôle parce qu'ils ont mis un espèce de gars qui est complètement mégalomane et qui va se prendre pour DiCaprio et pour James Cameron à la fois, en même temps, en faisant les deux, quoi. Mais avec 30 figurants en suite à capuche sur un bateau qui est à l'arrêt, quoi.
Mais justement, c'est pas ça qui vous séduit, je dirais, c'est la part de poésie capuche, parce que suite à capuche, on le voit bien, hein, on peut dévoiler. Mais d'emblée, ce qui ouvre Nanarland volume 2, donc qui est édité chez Ankama, c'est à la fois il y a des critiques de films, il y a de nombreuses images, il y a des tas d'informations aussi, il y a une dimension encyclopédique, et puis il y a évidemment ces affiches. Et la première que vous avez choisi de mettre en place, c'est de nous donner à voir, c'est Warriors of the Wasteland. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas pensé tout de suite à, je sais pas, Conan le Barbare par exemple, vu l'acteur, mais c'est au Wasteland de T.S. Eliot. La terre vaine, hein, et j'aimerais que vous nous parliez un peu de la poésie, parce que T.S. Eliot, précisément dans The Wasteland, il écrit « Je te montrerai la peur dans une poignée de poussière ». Est-ce que c'est pas ça exactement les nanars, de réussir à nous faire peur avec une poignée de poussière?
Alors si, effectivement, mais après c'est j'aimerais partir sur un peu autre chose, mais ça m'y a fait penser, on marche sur un équilibre qui est très 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 instable entre le cynisme, la pure moquerie de gens incompétents, l'escroquerie notoire, voilà, et enfin, c'était un peu le cas au début, parce que voilà, on découvre forcément des choses complètement inédites pour le regard, des types qui violentent la grammaire cinématographique à en faire s'évanouir les exégètes, mais on a fini en fait par s'attacher vraiment à ces films. Il y a des films qui sont chroniqués là-dedans, et tous mes camarades du site Nanarland sont d'accord avec moi qu'on aime comme nos propres enfants, des enfants malades, mais des enfants.
Alors, il y a une dimension politique aussi, qu'on retrouve dans l'entreprise Nanar. Alors bon, pour repréciser, parce qu'on l'a pas encore dit, ça peut être un doublage qui est complètement raté, hein. Le film peut être réussi, ça peut être un budget très faible sur les effets spéciaux qui amène à faire des choses assez ratées, etc. Donc, le nombre de critères qui font d'un film un nanar est assez infini. Mais vous avez donc pris le soin de noter les commentaires, en fait, des gens du site Nanarland, en préface, à moins que vous les ayez inventés.
Non, mais c'est pas Nanarland, c'est des gens qui chroniquaient à leur façon le premier tome, en fait.
Qui chroniquaient le premier tome, par exemple, comme Harold Ritter, moussacophobe complotiste, excellent dans l'art délicat du CQFD. Il dit, si Hollywood avait éduqué son public à avoir peur des moussacas au lieu des astéroïdes et des aliens, et si les moyens y étaient mis, ce film ne serait plus dans la catégorie des nanars suscitant l'empathie, mais celle des navets dominateurs d'Hollywood, et il parle de l'attaque de la moussaca géante, bien sûr.
Et surtout, il dit que c'est ce qui révèle le rapport de domination inclus dans Nanarland, et ça, c'est génial. C'est-à-dire, c'est la consécration. À partir du moment où on devient la cible des complotistes, c'est que quelque part, on a réussi.
Mais justement, l'autre dimension politique qu'on peut voir, c'est l'utilisation dans International Guérilla, c'est un film pakistanais, où il faut tuer Salman Rushdie. Donc, on part en mission pour tuer Salman Rushdie avec tout un tas de séquences un peu propagandistes. Donc, finalement, là, vous nous révélez aussi tout un pan de cinéma de propagande qui peut passer complètement inaperçu.
Oui, mais d'autant qu'en plus, c'était dans un contexte très, très, très particulier. Hein. Enfin, la publication des versets sataniques, les émeutes qu'il y avait eu dans le monde musulman. Enfin, c'est quelque chose vraiment de très spécifique à l'époque. Mais c'est un film qui, ouais, que Salman Rushdie a vu. En fait, à la base, les producteurs voulaient le sortir, notamment en Angleterre, où il y avait un marché, un public pour ça. Et l'Angleterre a refusé. Salman Rushdie a vu le film, il a dit non, mais allez-y, en fait. Franchement, c'est pas grave. Parce que le film, enfin, c'est pour ça qu'on voulait en parler. C'est que le film est incroyable, quoi. C'est un Bollywood, faut le savoir. Où le méchant, c'est Salman Rushdie, qui est joué par un comédien, qui a une espèce de mélange entre homme pourri, un grand acteur du cinéma Bollywood et de Jerry Lewis.
Et que la Mouidouid.
Non, je crois que c'est Afaz Ahmad.
Pardon.
Et donc voilà, Salman Rushdie est le méchant et en fait, il veut ouvrir des nightclubs au Pakistan pour corrompre ce dernier bastion de l'islam en fait. Ce film est complètement fou quoi. Il y a trois frères qui jurent en fait la perte de Salman Rushdie et qui en fait vont s'infiltrer dans une soirée où Salman Rushdie est invité et pour passer incognito, ils se déguisent en Batman. Donc déjà, il faut s'imaginer ça. Et surtout, à la fin, Salman Rushdie est tué par des corans volants qui tombent du ciel et qui tirent des rayons laser qui sont en fait dessinés à même la pellicule, quoi.
Je sais pas si on peut parler directement au premier degré, comme c'est le cas dans cette section, ce chapitre de Nanarland, de la dimension politique de votre cinéma et de votre musique, Quentin Dupieux, mais il y a quelque chose qui revient très souvent d'un point de vue sonore et en particulier sur All Wet, votre nouvel album. C'est les sirènes de police, que ce soit sous forme plus ou moins dissimulée, avec des nappes de synthétiseurs. Et j'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous avez quelque chose fondamentalement à vous reprocher?
Non.
Vous êtes coupable?
Non, j'espère qu'il n'y a rien d'incroyable.
C'est le son de la Californie, de Los Angeles qui vous...
Peut-être, mais non, c'est que dans cette musique, il y a une culture de la sirène, dans la musique de rave. En fait, il y a tout un tas de sirènes qui sont connues. Qui ont été samplées et ressamplées des milliers de fois.
Oui, dans Gulag Drums, il y a aussi une sorte de sirène d'incendie.
Voilà, donc il y a cette sirène-là, mais
beaucoup de signaux d'alarme, beaucoup de sonneries d'urgence, non, c'est vrai, hein. il y en a à peu près sur...
Alors, oui, mais en fait, c'est la même réponse que tout à l'heure, c'est parce que je ne suis pas musicien. Donc, c'est ça, ma musicalité.
J'avais cru que c'était un instrument.
Non, mais il y a cette culture, effectivement, de la sirène. C'est hyper présent dans la techno, dans la musique de rave, même aujourd'hui dans la nouvelle musique électronique américaine. Que les mecs appellent l'EDM, on ne sait pas pourquoi, Electronic Dance Music, qui est en fait la nouvelle techno, mais qui vient des États-Unis. C'est globalement, c'est que des trucs un peu d'aliénés, c'est un peu des musiques d'asile avec des sirènes. Il y a beaucoup de sirènes. Il y a toujours eu, enfin depuis
scooter.
Comment?
Scooter. Alarma.
Ah oui, c'est ça. Voilà, exactement. Alarma. Il y a eu Alarma, mais bien avant Alarma, il y avait les vrais trucs de rave, parce que Alarma, c'est la version commerciale italienne de la rave. Mais avant ça, il y avait les trucs de rave. C'était que des sirènes. C'était. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la police. C'est plus.
C'est l'urgence.
Je sais. Ou alors c'est le rassemblement. Je ne sais pas. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc de. C'est roueux, encore une fois. L'ordre.
Mais il y a aussi quelque chose chez vous de l'ordre un petit peu de tout ce qui est les parties organiques. C'est de la musique électronique, mais vous aimez bien y ajouter de l'organique, de la chair, avec toujours ce petit côté série Z qui transpire aussi au niveau sonore. On a le titre Liver, donc il s'agit du foie. Donne-moi ton foie, je te donnerai mon cœur. Vous aviez fait aussi à un moment Inside Kidney McKinney, à l'intérieur de la machine du rein. C'est quelque chose comme ça que...
C'était le rein artificiel.
Le rein artificiel, pardon. C'est quelque chose que vous essayez comme ça. D'injecter, on va dire, de la série Z sonore?
Non, c'est que, en fait, c'est, genre, encore une fois, c'est pas conscient. J'en parle là comme si c'était. En fait, j'y pense en même temps que vous. Mais c'est tout simplement que cette musique, en fait, qui est faite sur des ordinateurs, on est très vite. On se retrouve très vite dans des espèces de trucs tout froids, complètement inhumains. Voilà, donc, en fait, même moi, dans la fabrication, il y a plein d'étapes où c'est de la musique morte. Parce que c'est un ordinateur, parce que c'est des faux synthétiseurs, c'est une façon de générer les sons qui sont, c'est des trucs morts, c'est des sons morts. On fait de la musique avec de la mort, avec un truc vraiment encéphaloplat. Et il y a plein de musiciens électroniques qui assument complètement ce côté froid et qui en ont fait une esthétique sonore. Qui peut être intéressante pour certains. Moi, j'aime bien sentir. Après, je répète, c'est pas une démarche consciente, mais je l'analyse en même temps. Je sais pourquoi. C'est que cette froideur de l'ordinateur et cette mort en fait qu'il y a dans l'ordinateur, elle est gênante. C'est exactement comme le principe de qui est un peu gênant, mais de rajouter du grain sur une image digitale. Voilà, c'est un procédé qui se fait beaucoup parce qu'en fait, même avec les meilleures caméras et le meilleur process numérique, etc., en fait, il y a des images numériques qui sont en fait mortes. Il suffit qu'un plan ne bouge pas, il suffit que les arbres ne bougent pas pour que l'image soit complètement morte. On dirait une photo, on dirait un screensaver d'ordinateur.
Ouais, ou une banque à photos, quoi, une banque à
images. Voilà. Alors que en film, en pellicule, on peut filmer une chaise à l'arrêt, il y aura de la vie. Ce sera l'image, elle bouge un petit peu, c'est un peu vivant. Voilà, ce qui est pas le cas en numérique. Donc on a des façons artificielles de greffer de l'organique. Sur ces trucs numériques morts. Je sais pas si c'est peut-être trop précis ce que je raconte.
Non, mais vous mettez du grain dans votre musique et dans vos images.
Voilà, et ça passe par. Après, il n'y a pas de méthode particulière. C'est une façon de. Parfois, on réenregistre un son avec un micro. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Moi, je prends beaucoup des toutes petites portions sur des disques vinyles. Par exemple, des sons de batterie, etc. Il y a toujours des éléments
organiques.
Des échantillons. Plein pour nourrir, pour que le spectre du son soit riche, en fait, parce que vraiment l'ordinateur en tant que tel, ça produit des trucs assez laids, en fait. C'est très laid.
C'est quelque chose que je ressens en tant que spectateur au cinéma, cette froideur de l'image numérique, en fait.
Oui, non, mais il y a plein de cinéastes.
Les films se ressemblent sans vouloir être raciste, mais.
Non, mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a plein de cinéastes.
Excusez-moi, je note cette phrase que je vais la communiquer à l'internet.
Et plein de chefs opérateurs qui ont très mal négocié le passage au numérique. Le meilleur exemple, c'est Marius, réalisé par...
Daniel Auteuil.
En fait, ils ont voulu fonctionner comme si on était en 1940, c'est-à-dire qu'ils ont fait un décor avec une patine, comme si c'était supposé être filmé avec une vieille caméra.
J'étais distrait par les accents, en fait. Mais
les accents sont gênants, parce que des fois, en plus, ça s'arrête, des fois, ils les perdent. Il y a un manque de rigueur sur l'accent. Mais le pire, c'est, en fait, ils ont éclairé ça comme si on était avec des vieilles caméras qui avaient besoin de beaucoup de lumière. Et en fait,
ça jure, du coup.
C'est un rendu d'une laideur absolue.
Quand on voit, du coup, Raphaël Personnel avec son costume de marin, ça n'a pas de sens. Quoi. Non, enfin, vrai, avec l'image numérique qui est complètement froide.
Après, voilà, c'est, on est encore en train d'apprivoiser l'outil.
Raphaël Personnage, ouais.
Mais une façon de régénérer, de mettre de l'organique dans votre musique, Quentin Dupieux, sur ce nouveau disque de Monsieur Oiseau, donc All Wet, c'est aussi de mettre des gens vivants dedans. Et il y a de très nombreux featuring, de très nombreuses collaborations avec des artistes de tout poil, si je puis dire. Et il y a notamment No Tony, morceau avec Fra, où il ne cesse de répéter No English Today, donc musicien, producteur de musique électronique et rappeur italien, un clin d'œil à l'Italie, et qui, disons-le, François Coe, est essentiel dans la cosmogonie de Nanarland, parce que là, on est entre la France avec sa French Touch, avec son cinéma Marius, et la Californie, et
il y a
son EDM.
Thaïlandais aussi.
Mais voilà, il faut dire quelque chose de l'Italie, qui est peut-être la Mecque du nanar.
Oh, ça l'a été, mais c'était le.
Oui, c'est promis en tout cas.
Oui, effectivement, l'Atlantide. Allons-y, quoi. Du nanar. Non, c'était le culte du recyclage, en fait. C'est de là que viennent beaucoup de copies fauchées de Mad Max, de Star Wars. Il y en a dans le tome 1, dans le tome 2, à Tire l'arigot. Chaque fois qu'il y a une petite
aussi.
Tendance, en fait, de Terminator avec le fameux Atomic Cyborg. De sinistre mémoire, mais c'était dans l'air du temps.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Parce que nous, on a Diesel, par exemple, ce film incroyable que personnellement je n'avais pas vu avec Richard Boringer et Monsieur Klein. J'ai oublié son et c'est pas le film de Joseph Losey.
Gérard Klein.
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, les Italiens, pour être aussi forts?
Il n'y avait pas l'exception culturelle.
Non,
ils avaient...
Pas honte.
Ils avaient Cinecittà, ils avaient beaucoup, justement, de techniciens compétents qui sont devenus des staccanovistes à force, quoi. Puis beaucoup de comédiens, y compris américains, qui venaient là parce qu'ils aimaient bien, parce que c'était sympa, parce que les Italiens étaient affables, je ne sais pas. Mais, c'est ce qu'ils racontent, en tout cas. Je ne me permets pas de supputer à leur place, mais c'est ce qu'ils racontent. Ça a été une terre promise et puis ça s'est arrêté grosso modo dans les années 80 quand le filon s'est estompé et puis quand le western et les péplums se sont un petit peu arrêtés parce qu'il y en avait trop, en fait, tout simplement. Enfin, c'est une conjoncture de beaucoup de choses, j'essaie de résumer un petit peu, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais c'était une terre promise, effectivement.
C'est vrai que vous êtes une encyclopédie du nanarisme, François.
Non. Je relais beaucoup le travail de mes petits camarades de Nanarland. On est une équipe.
C'est le moment de les citer.
On est une team. Régis. Il y a deux Régis, les Régis. Il y a Benjamin, il y a Richard, il y a Fabien, il y a Pascalou.
Celui que vous allez, qui va vous détester parce que vous n'allez pas le citer aussi.
Il y a Julien et aussi Tony en fait qui a fait la mise en page.
Il y a du Tony chez vous, il y en a pas chez Quentin Dupré, mais il y en a du.
Oui, je fais du Tony.
Et donc pour revenir donc sur cette bande de nanaristes, ce qui est intéressant, c'est que vous avez peut-être l'objet, ou en tout cas le secteur culturel le plus transgénérationnel avec ce livre qui est en forme de VHS. Finalement, vous allez pouvoir réunir des gens qui sont à la recherche sur YouTube de rareté, parce qu'aujourd'hui, si on a envie de voir un vieux Mario Bava, si on veut aller regarder un peu d'Attaque de la Moussaka Géance, je veux dire, en deux secondes, ça se fait sur YouTube. Et en même temps, vous avez le chineur de VHS, le type qui écumait les brocantes à la recherche de la rareté absolue. Donc finalement, est-ce que voilà, c'est pas le nanar, c'est pas le genre pour jeunes et vieux.
Absolument, mais après c'est pas du tout calculé, parce que là vous nous faites pas passer pour des espèces de gars qui avaient tout prévu dans leur coin, dans leur petite caverne, en disant mais pas du tout. C'est qu'on est juste arrivé en fait au bon moment, à la croisée en fait de la génération où l'objet film était quelque chose d'un petit peu plus sacré maintenant, sans vouloir faire le vieux critique triste, mais où voilà, enfin il fallait attendre un certain temps, où voir un film ça demandait quand même de se déplacer, d'aller le chercher, de le mettre dans une machine pour lire ce genre de choses, etc. Et puis cette nouvelle génération maintenant qui a tout à disposition en fait, et qui est assez apte à juste faire des petits extraits sur YouTube.
Qui n'aurait pas la patience de regarder un Moussaka en entier,
ouais,
c'est sûr.
Oui, voilà, on fait ça aussi, ouais, c'est vrai que
en zapping,
travail en mettant les meilleures répliques directement, mais voilà, et c'est cette rencontre effectivement générationnelle avec le côté nostalgique, la génération doudou, etc., etc. Mais oui, c'est pas du tout calculé, mais disons que c'est vrai, c'est quelque chose qui arrive à la croisée de ces deux générations. Mais ça donne quelque chose d'intéressant, y compris au niveau du site, où il y a cette nouvelle génération qui arrive, en fait, qui a grandi avec le site, parce que le site a 15 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Mais du coup, c'est assez intéressant. Enfin, puis à partir du moment où il y a une émulation cinéphile, ça reste quand même l'essentiel.
J'ai l'impression qu'au pays du nanar, il y a quelque chose qui manque. Quand même, François Coe, même s'il y a des actrices épatantes et assez souvent courtement vêtues, même s'il y a des garçons bodybuildés qui cassent des gueules pour les délivrer assez régulièrement dans les nanars, j'ai l'impression qu'il y a assez peu d'amour. Et contrairement à ce qu'on peut penser dans la musique de Quentin Dupieux, elle n'a rien de froid aussi à cet égard-là. Il y a même, par moments, un côté fleur bleue des mélodies que vous laissez affleurer presque malgré vous, quand vous êtes dans la peau de Monsieur Oiseau, dans End of the World, dans Hand in the Fire. J'aimerais que vous nous parliez de l'amour, de la place de l'amour dans votre musique, qui, je crois, était composée au départ pour faire hurler les filles.
Non, mais là, les deux exemples, c'est effectivement, c'est des collaborations extérieures qui amène, voilà, je vois très bien les notes un peu amour du morceau End of the World. C'est complètement Skrillex, ce jeune garçon complètement émo, qui est venu apporter ces notes généreuses.
Ah, c'est pas vous?
Non, c'est pas moi. Non, mais moi je suis incapable de faire ça. Mais par contre, je suis très content. J'adore participer à à cette diffusion d'amour. Je trouve ça rigolo, mais non, chacun son domaine, en fait, j'ai envie de dire. Moi c'est pareil dans mes films, je me suis concentré sur tout un tas d'autres trucs. C'est pas un sujet que je suis pour l'instant en mesure de traiter, voilà. Ça viendra peut-être. En même temps, est-ce que c'est vraiment utile?
Moi, l'amour, oh bon, non, c'est pas la peine.
Non, mais dans les films, voilà, dans les films
c'est surfait.
Ping pong. C'est déjà fini.
Ah ouais.
Et on continuera donc à chercher l'amour. Merci beaucoup à tous les deux, Quentin Dupieux et François Coe. Quentin Dupieux, sous le pseudonyme de Monsieur Oiseau, vous êtes donc tout mouillé, All Wet, c'est votre nouveau disque, chez Headbanger et Because Music. Quant à vous, François Coe, Nanarland 2, c'est chez Ankama Édition, sous le label 619. Et puis, il y aura des soirées nanar, à découvrir tout partout, et en particulier vendredi, dans le 13e arrondissement de Paris.
Le ping-pong est une pulsion radiophonique, un animal qui ne cesse de se reproduire en équipe. Et quelle équipe! À la rédaction, Aïssette Wendoy, Jeanne Aléos, Seam Boutata et Lila Bozès. À la réalisation ce soir, Thomas Beau, comme tous les soirs. Et à la prise de son, Élise Le et Pierre Faucillon, comme le vinyle.
Demain, ping-pong anime la mémoire et les objets, avec la romancière Yannick Granek en plein Bauhaus et le designer Mathieu Lehaneur.